Et donc maintenant, la parole est à Ettore. Merci pour ta patience. Et nous t'écoutons avec beaucoup d'intérêt. Donc tu es à Florence, mais nous sommes à Paris et beaucoup de nos auditeurs seront un peu partout en France et dans le monde. C'est ça la modernité.
Merci François, merci de cette invitation. Je suis comme Virginie, que je salue, très honoré d'être au Collège de France. J'espère que mes propos viendront compléter les discours très intéressants de Virginie. François Héran l'a anticipé dans son introduction, moi je me suis occupé plutôt des migrations au sein de l'Europe, les migrations intra-européennes. Là, j'ai participé à pas mal de tables rondes, aux colloques qui avaient par titre « Est-ce que l'Union européenne a une politique migratoire ?» Et ma réponse habituelle est « Non, l'Union européenne n'a pas une politique migratoire, elle en a deux. » Et en fait, il y a une deuxième politique migratoire de l'Union européenne, qui est la libre circulation, et qui est un peu mise à côté, c'est fait exprès, dans un certain sens. Du point de vue sémantique, la même Union européenne qualifie la libre circulation pas comme un régime migratoire, mais comme un régime de mobilité. Et cette différence sémantique est aussi intériorisée par les migrants eux-mêmes, des gens comme moi, par exemple, qui sont plutôt reluctants, réticents à accepter l'idée d'être des migrants. Mais en fait, selon la définition standard qui a été relayée par les démographes, les sociologues, les politistes, qui est la définition des Nations Unies, on est migrant si on s'installe dans un pays dont on n'est pas citoyen pour plus de 12 mois. Et en ce moment, il y a 18 millions d'Européens qui sont dans cette condition. Donc, je parlerai un peu de cette population, qui est une population qui a été créée et inventée par l'Union européenne. Le régime de libre circulation est un régime absolument unique dans le monde. Il n'y a pas de région du monde où 28 États donnent les droits aux citoyens d'autres États de s'installer librement sans demander un permis, sans demander une autorisation. Cela n'a pas été inventé du jour au lendemain, cela remonte aux années 50. Virginie même avait évoqué que déjà avec les traités de Paris, qui a créé la communauté du charbon et de l'acier, il y avait une petite clause qui finalement n'a pas été utilisée, qui donnait les droits de libre circulation aux travailleurs du secteur du charbon et de l'acier. De manière plus solennelle, cette clause a été reprise et élargie, étendue à tous les travailleurs des pays membres de la communauté économique européenne en 1957 avec le traité de Rome. Et finalement, elle a été implémentée de manière plus spécifique et plus efficace en 1968 avec des directives européennes et finalement avec les traités de Maastricht en 1992, ces droits de libre circulation ont été attribués à tout citoyen européen. Les traités de Maastricht ont introduit la citoyenneté européenne et au cœur de la citoyenneté européenne, il y a ces droits-là. On est citoyen européen car on a le droit de passer les frontières avec une carte d'identité, pas avec un passeport, simplement en démontrant d'être citoyen dans des pays membres de l'Union européenne. On a le droit de s'installer sans demander une autorisation. On a le droit d'être traité comme les citoyens du pays où on s'installe. Avec une seule exception, c'est les votes aux élections nationales. Mais on peut voter aux élections locales, on peut voter aux élections européennes, on peut demander de l'aide de l'État, on peut demander le chômage. Donc, on est comme des citoyens nationaux sans l'être. Okay? On peut même devenir des fonctionnaires du pays d'accueil. C'est exactement mon cas. Moi, je suis fonctionnaire du ministère de l'Éducation, mais je ne suis pas citoyen français. Dans cette diapo initiale, vous voyez qu'il y a une autre date clé, c'est le 2004. Pourquoi le 2004? Car en 2004, il y a le grand élargissement de l'Union européenne vers l'Est, et là, tout change. Je vous montrerai un peu comment ça a eu lieu. Donc, cette politique, c'est une politique migratoire, la libre circulation, une politique absolument inconnue dans le reste du monde. C'est une chose qui qualifie vraiment l'Union européenne, mais c'est une politique aussi qui a à voir avec la mobilité quotidienne et pas forcément pour des mobilités migratoires. Donc, même les Européens qui ne migrent pas, mais qui partent en vacances, quand on pouvait partir en vacances, quand on pouvait voyager en Espagne, en Italie, au Portugal, ben, ils ont une expérience directe du régime de libre circulation. Ce qui donne à ces régimes une visibilité, une lisibilité auprès de la population européenne qui est extrêmement forte. Et ça rend cette politique la politique européenne la plus connue. Il y a une question de l'Eurobaromètre. Vous savez, l'Eurobaromètre est une enquête menée par Eurostat, le bureau statistique européen, régulièrement. Et donc, depuis 2005, il y a cette question: qu'est-ce que l'Union européenne signifie pour vous personnellement? Il y a une quatorzaine, 12 ou 14, je ne me souviens pas, options alternatives de réponse. Et régulièrement, à peu près 50% des gens qui répondent choisissent la possibilité de travailler, la liberté de voyager, étudier et travailler partout en Europe. Donc, les gens connaissent la libre circulation et l'apprécient. Ils considèrent que c'est la politique qui caractérise l'Union européenne. Rouge, tout en haut de ces graphiques. Il y a une population croissante des gens qui, sur la base du droit de libre circulation, s'installent dans un autre pays de l'Union européenne. Ces graphiques montrent l'évolution du stock global des migrants intra-européens. À partir de 1990 jusqu'aux données les plus récentes, 2018. Vous voyez que dans les années 90, les nombres stagnent autour de 6 millions. Après, tout change avec les nouveaux siècles et il y a une montée progressive, très constante, de ces nombres jusqu'à presque 18 millions d'aujourd'hui. 17 600 000, ce sont les derniers chiffres officiels d'Eurostat en 2019. 75% de ces migrants intra-européens, des citoyens européens qui vivent, pas forcément travaillent, hein, vivent dans un autre pays européen, se trouvent dans 100 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne. Et l'évolution des effectifs des résidents européens dans ces pays sont illustrées par ces bandes. La France est les deux clairs. Là, vous voyez, la France est le seul pays parmi ces cinq où il n'y a pas une augmentation, comme déjà l'évoquait François Héran dans son introduction, où il n'y a pas un changement, une croissance du nombre des citoyens européens qui y résident. Par contre, la croissance est assez spectaculaire au Royaume-Uni, mais aussi en Italie et en Espagne à partir du début des années 2000. Pourquoi les années 2000? Car il y a l'élargissement. Et l'élargissement est vraiment le moteur des nouveaux flux des citoyens européens qui suivent une route d'est à ouest. J'en parlerai. À ces effectifs, il faut y ajouter 1 400 000 travailleurs de l'Union européenne qui se trouvent en Suisse et en Norvège, qui font partie de l'European Free Trade Association. Et et d'autres qui ne sont pas enregistrés par les chiffres. À nouveau, je reviens sur une chose qui a été anticipée par François Héran. Et il y a quelque chose de paradoxal dans les droits de libre circulation. On peut franchir les frontières, on peut bouger d'un pays à l'autre sans se déclarer. Ça fait partie de la logique intrinsèque de la libre circulation. Donc, il y a pas mal de gens qui décident de se réinstaller sans informer les autorités du pays qui les reçoit ou pour des périodes variables ou avec des stratégies de mobilité qui sont plus complexes. Ils passent quelques mois dans un pays, après ils rentrent, ils ont une double résidence. Donc, il y a certainement une sous-estimation. Tout récemment, j'ai commencé une étude avec des collègues data scientists, je ne sais pas comment traduire data scientist en français, donc des informaticiens. On a fait des analyses de big data de Facebook et on a pu calculer combien, au moins estimer combien d'Italiens se trouvent qui utilisent Facebook dans les autres pays européens. Et nos conclusions, c'est un papier qui en fait, j'aurais dû présenter dans un autre colloque à Rome il y a une semaine, mais le colloque a été annulé. Cette étude montre que les chiffres officiels sur les Italiens à l'étranger, en Europe au moins, ne rendent pas compte d'à peu près un million d'Italiens qui ne se déclarent pas. Donc il y a une sous-estimation de 50% par rapport aux chiffres officiels. Il y a 4 nationalités d'Européens qui sont plus susceptibles de bouger. Ce sont les Roumains, ce sont les Polonais, les Italiens et les Portugais. Ces 4 nationalités confondues forment à peu près 50% des effectifs globaux des migrants intra-européens, à peu près 9 millions de personnes. Ils sont répartis de manière inégale dans les pays. En France, c'est surtout les Portugais qui l'emportent, qui sont plus nombreux. En Italie, c'est très majoritairement les Roumains. C'est aussi le cas en Espagne. Au Royaume-Uni, c'est plutôt les Polonais. En Allemagne, il y a un mélange assez balancé de ces nationalités. De manière globale, c'est les Roumains, les groupes les plus nombreux. Et pourquoi ça? Là, c'est un des cas dans lesquels la théorie économique des migrations marche très bien. Vous voyez dans les graphiques en bas les évolutions des flux. Là, on parle des flux, pas plus des stocks, des flux migratoires de l'Europe, de la vieille Europe, de l'Europe à 15, les flux annuels. Et en violet, vous voyez les nombres de flux provenant des pays nouveaux membres, soit de l'élargissement de 2004, donc polonais, lituanien, tchèque, d'autres hongrois, et de 2007, donc les Roumains et les Bulgares. Et vous voyez que cette croissance progressive, cette augmentation progressive du nombre des migrants intra-européens se doit majoritairement par l'apport des migrants de l'Est plutôt que des migrants des autres pays. Et si vous regardez les tableaux en haut qui montrent les salaires moyens dans très grandes catégories des professions, les cadres, les professions, disons, intermédiaires et les professions élémentaires, vous voyez que, par exemple, entre un salaire moyen d'une profession d'un ouvrier en Bulgarie ou en Roumanie et les salaires en Allemagne et même en France et en Italie, il y a un rapport de 1 à 100. C'est même plus convenant du point de vue strictement monétaire pour un cadre bulgare de déménager en Allemagne pour faire un travail manuel. Donc, il y a des déséquilibres en termes économiques, des différentiels de salaires qui sont à la source, qui expliquent très bien cette montée des migrations de l'Est à l'Ouest de l'Europe. La transformation du paysage migratoire européen, en fait, se doit beaucoup à la montée, à ces flux qui viennent d'Est à Ouest. Des deux populations qui forment les migrants en Europe, les citoyens européens migrants et les citoyens des pays tiers, la balance a changé dans les derniers 20 ans. À la fin du siècle dernier, les Européens mobiles ou les migrants européens étaient moins d'un tiers de la population des migrants en Europe, 31,6%. Leur poids sur le total de la population migrante a augmenté jusqu'à 44%. Donc, en fait, dans les derniers 20 ans, malgré la crise migratoire de 2015, dont on a parlé avant avec Virginie, les flux provenant de l'intérieur de l'Union européenne ont été plus importants que les flux provenant de l'extérieur, ce qui n'est pas aperçu par l'opinion publique. Pour l'opinion publique, les migrations viennent de l'extérieur, c'est pas les migrations internes sont plutôt soit invisibles, soit pas visibles ou pas perçues. Avec une seule exception qui est le Royaume-Uni, on parlera de ça. Et en fait, le Brexit est largement le produit de cette visibilité des migrations internes à l'Union européenne. Donc, entre 2008 et 2016, il y a eu à peu près entre 1,2 million et 1,6 million Européens qui se sont réinstallés dans un autre pays de l'Union européenne. Depuis 2016, il y a une certaine stabilisation, même une légère baisse de ce nombre, aussi à cause du Brexit. Mais dans ces flux, il y a de plus en plus de retours, des gens qui ont migré et qui reviennent à leur pays d'origine, ou même migrent vers un autre pays au sein de l'Union européenne. Donc, une migration circulaire. Et finalement, en 2018, les tournées d'immigration intra-UE s'est réduit à 382 000. Une caractéristique de cette migration est que c'est une migration plutôt réversible, et c'est dans les dispositifs qu'il y a cette réversibilité. La facilité de s'installer dans un autre pays sans demander d'autorisation, sans savoir à se confronter avec la dureté et toutes les contraintes qui sont typiques des migrations dans d'autres parties du monde, mais aussi au sein de l'Union européenne pour ceux qui ne sont pas européens, facilite une certaine mobilité. Le résultat est que la durée moyenne des migrations intra-européennes est assez limitée. 50% des migrants intra-européennes ne restent plus que 4 ans dans les pays de destination. Donc là, j'ai un cas précis juste pour illustrer ce phénomène. C'est le cas du Royaume-Uni de 2004 à 2017. Vous voyez que le nombre de ceux qui arrivent, c'est la ligne violette en haut, et le nombre de ceux qui partent voyagent presque en parallèle. C'est vrai, il y a plus de gens qui arrivent, donc il y a une augmentation de la population des migrants intra-européens, mais tout ça est accompagné aussi par des départs. Ce qui a un peu changé, c'est après le Brexit en 2016, la montée des retours au pays d'origine. Donc, il y a moins d'immigration circulatoire, il n'y a plus de retour. Mais au Royaume-Uni, on a estimé que plus de la moitié des des migrants intra-européens se sont installés dans la dernière décennie. Donc, ce sont des migrants assez récents. Il y a deux grandes destinations qui disons, priment sur les autres. C'est l'Allemagne. Vous voyez qu'il y a une montée assez spectaculaire des nombres d'arrivées en Allemagne, notamment à partir de 2009, c'est le début de la crise de l'euro. La montée était moins spectaculaire au Royaume-Uni. Il y a d'autres pays où il y a de moins en moins d'arrivées, c'est l'Italie. Et c'est intéressant que l'Espagne ne suit pas la même courbe, même si les niveaux sont évidemment beaucoup plus bas que les niveaux d'arrivée en Allemagne. Mais si on regarde de manière plus fine les réseaux complexifs, les réseaux des arrivées et des départs, et c'est ce que je montre dans cette diapo que je viens de construire pour un article que je vais publier avec mon collègue Emmanuel Deutschmann d'ici quelques mois dans un bouquin sur l'Union européenne en préparation. Vous voyez que là, on a récupéré toutes les données sur les flux de migration entre tous les pays de l'Union européenne. Donc, on voit qu'il y a, oui, c'est vrai, qu'il y a surtout des flux qui vont d'est à ouest. C'est très clair, ça se voit par la largeur des lignes. Et l'axe principal est entre Roumanie en 2018 et Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni, même si les chiffres sont un peu inférieurs à l'Allemagne, reçoit des migrants qui arrivent de tous les pays européens. Donc, elle est plus centrique que l'Allemagne dans les réseaux global des migrations intra-européennes. Or, vous savez que le Brexit a été voté en juin 2016, les négociations sont encore en cours, c'est assez incroyable, 4 ans après. Si les négociateurs arriveront à un accord d'ici décembre, ce qui est possible, pas forcément le cas, le Royaume-Uni sortira définitivement de ces régimes. Donc, disons que le régime de libre circulation va perdre un de ses piliers. L'accès au Royaume-Uni deviendra absolument plus difficile, concurrentiel. Le Royaume-Uni va mettre des barrages, des trier les migrants et les migrants intra-européens ne seront plus intra-européens au Royaume-Uni et ils seront en concurrence avec les travailleurs migrants d'autres parties du monde. Quel est le destin des migrants intra-européens? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, on sait qu'ils travaillent davantage, ils travaillent plus, ils ont un taux d'activité en ce moment plus élevé que les nationaux. Donc, dans ce sens-là, ils sont des migrants assez. Ils ont du succès. Ils sont plus jeunes, mais là, on sait que c'est typique de tous les migrants. Leur sort est plutôt différent selon d'où ils viennent. Dans ces diapos, je montre des grandes catégories d'emplois. Les occupations alimentaires, les occupations intermédiaires, les cadres. Et si on regarde la distribution des nationaux, des citoyens mobiles européens, des migrants intra-européens globalement, mais surtout la différence entre les occupations, les professions des Européens de l'Ouest et du Sud, des vieux pays de l'Union européenne, de l'Union européenne à 15, et les professions des Européens mobiles qui viennent des pays de l'élargissement de 2004 et 2007, on voit que les Européennes de la vieille Europe, de l'Union européenne à 15, sont surreprésentées en comparaison avec les nationaux parmi les cadres. Donc, ils vont vers des professions privilégiées. Par contre, les Européens de l'Est sont surreprésentés parmi les occupations élémentaires, les occupations manuelles et les occupations de l'industrie. Cela reflète des différences de composition de ces populations, oui et non. Oui, dans le sens que les migrants européens qui migrent d'un pays à l'autre de l'Union au sein de l'Union européenne à 15, ils sont assez nettement plus scolarisés que la population des pays où ils s'installent. Vous voyez que 53% d'entre eux ont des qualifications de niveau universitaire, contre 26% parmi les nationaux. Par contre, les Européens de l'Est, les Polonais, les Roumains, les Bulgares, ils ont un niveau de qualification qui est très proche de celui des citoyens des pays où ils s'installent. Donc, ils ne sont pas sous-qualifiés, ils sont qualifiés à peu près comme la population des pays des destinations, mais ils ont, disons, trouvent du boulot dans des boulots sous-qualifiés. Et cela n'a pas trop changé dans les derniers 10 ans. Donc, même s'il y a déjà une histoire, et donc aussi possiblement trajectoire de mobilité sociale ascendante dans les pays de destination, cette caractérisation des migrants de l'Est de l'Europe vers des occupations, des professions élémentaires demeure dans les temps. Il y a quelques petites différences des genres. Les femmes sont légèrement surreprésentées parmi les migrants intra-européens. Et cela se doit surtout au fait que parmi les migrants de l'Union européenne à 13, les emplois domestiques, surtout dans le sud de l'Europe, sont majoritaires, sont prévalents. Alors là, j'ai une diapo un peu complexe. Je ne vais pas m'attarder, mais j'explique la logique qu'il y a derrière. Il s'agit d'une analyse très puissante et très solide menée par un chercheur danois, Felbo Kolding, qui a pu analyser les données de la sécurité sociale au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, c'est une grande base de données avec des millions de fichiers individuels. Et il a calculé, il a étudié s'il y a des différences des salaires selon la provenance des travailleurs, tout en contrôlant pour l'âge, les genres et les niveaux d'éducation, qui n'est pas annoncé dans ces diapos. Ce qu'il a trouvé est que dans tous les pays, à parité d'âge, des genres et des niveaux d'éducation, les Européens qui viennent de l'ouest de l'Europe, donc les Français, les Anglais, les Allemands, mais aussi ceux qui viennent de l'espace de libre circulation de la European Free Trade Association, donc aussi les Suisses et les Norvégiens, ils ont des salaires qui sont moyennement plus élevés que les nationaux. À peu près 3% en Danemark, 11% en Allemagne, presque 15% au Royaume-Uni. Ceux qui viennent du sud de l'Europe, par contre, ils sont légèrement pénalisés, de manière pas significative en Danemark, de 11% en Allemagne, de presque 10% au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant est que les Européens mobiles de l'élargissement de 2004, disons les Polonais, qui sont les groupes nationaux les plus grands parmi eux, sont, et ceux de l'élargissement de 2007, Romains et Bulgares, ils ont une pénalisation qui est assez importante, surtout en Allemagne, même plus importante que les citoyens des pays tiers, notamment les Turcs en Allemagne, peut-être en raison de la date de leur installation. Malheureusement, il n'y a pas la date d'installation dans les pays parmi les variables de contrôle. Mais cette pénalisation n'existe pas au Royaume-Uni. Donc, dans les marchés du travail du Royaume-Uni, qui est un marché plus flexible dans les biens et dans les mâles, les travailleurs étrangers, sauf ceux qui viennent de l'Europe du Sud, ne sont pas particulièrement pénalisés en termes de salaires. Peut-être que, comme effet, disons, pervers, inattendu de cette manque de discrimination, il y a eu un sentiment de concurrence plus élevée parmi les travailleurs britanniques de la part des migrants intra-européens. C'est une hypothèse. Comme on parlait du Royaume-Uni, comme on parlait de l'hostilité de l'électorat et de l'opinion publique anglaise envers les migrants intra-européens, je dois évoquer un argument qui a été martelé dans la presse anglaise surtout, mais aussi dans d'autres presses, je pense à l'autrichienne, mais aussi à la néerlandaise, c'est-à-dire et un peu l'allemande aussi, un peu moins peut-être en France, l'idée que le régime de libre circulation est un billet de la loterie offert gratuitement aux citoyens des pays les plus pauvres de l'Union européenne pour profiter de l'État-providence généreux de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas le cas. Il y a un tas de données qui montrent qu'en fait, les citoyens mobiles de l'Union européenne ne reçoivent pas plus ou même pas autant que les citoyens nationaux quand ils s'installent à l'étranger. Là, j'ai des données d'un think tank de Bruxelles, ECAS, qui a calculé la moyenne des recettes obtenues par l'État par exemple, les citoyens européens mobiles au Royaume-Uni. C'est à peu près 2 000 euros par an. Qu'on doit confronter à presque 5 000 pour les citoyens anglais. En Autriche, également, c'est à peu près 2 000 euros pour les migrants européens et même 7 000 euros répartis entre les différentes sources de bénéfices de l'État et qui sont perçus annuellement par les citoyens autrichiens moyens. En fait, un message clé que je voudrais faire passer est que les migrants intra-européens forment un statut intermédiaire entre les citoyens nationaux et les citoyens des pays tiers. Dans ce tableau, j'ai calculé il y a quelques années les différentiels, les différences sur plusieurs indicateurs des performances des citoyens migrants européens et des citoyens des pays tiers en termes de conséquences ou des outcomes sur les marchés du travail, sur l'éducation, sur l'inclusion sociale. Et là, on voit par exemple que si on considère un indicateur assez typique, assez caractérisant des migrants, c'est-à-dire la surqualification, le fait d'avoir un niveau d'éducation, disons, supérieur à la moyenne de ceux qui travaillent dans les mêmes boulots, on voit que ça touche 8% plus des citoyens européens mobiles que des nationaux. Mais parmi les citoyens des pays tiers, cette proportion est 24%. Disons que la situation des citoyens des pays européens, des citoyens mobiles des pays européens, se rapproche assez de celle des citoyens nationaux. Je montre ça de manière peut-être plus efficace du point de vue visuel avec ces graphiques qui calculent les risques de pauvreté parmi les citoyens des pays tiers, non communautaires, et les migrants intra-européens, en bleu. Les chiffres que vous voyez sur l'axe vertical sont les odds ratio, c'est-à-dire la différence des probabilités de tomber dans un état de pauvreté de cette population comparé à la population des citoyens nationaux. Et quand le taux est 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Alors, en Belgique, les risques de pauvreté des citoyens des pays tiers est 8 fois plus élevé que celle des citoyens nationaux. Pour les citoyens intra-européens, mobiles intra-européens, ce risque est plus élevé que parmi les citoyens nationaux. Il est le double, mais il y a une grosse différence entre les deux, vous voyez. Et presque dans tous les pays, il y a seulement une exception, les citoyens intra-européens ont moins de risques de tomber dans un état de pauvreté que les citoyens migrants des pays. Je termine avec en discutant des mythes que j'ai trouvé très répandus dans l'opinion publique, mais aussi dans les experts, quand on parle des migrations intra-européennes. Surtout dans les années 90, après les traités de Maastricht, dans les couloirs de Bruxelles, on disait, on s'arrachait les cheveux, on disait, mais on a mis en place ce régime incroyable qui n'existe nulle part dans le monde, les libres circulations, il n'y a plus de frontières, on peut s'installer où on veut, et les Européens ne migrent pas, ne bougent pas. Est-il vrai? Ça a un peu changé avec l'élargissement, évidemment, mais ce qu'on avait en tête, c'était les niveaux de mobilité qu'il y a entre les États américains, où entre 2,5% de la population, tous les années, change d'état de résidence. Alors, or, en Europe, on est à peu près à 0,3%. Mais l'Europe n'est pas les États-Unis. Il y a une vingtaine de langues différentes. Il y a quand même une souveraineté qui n'est pas partagée d'une manière fédérale. Il n'y a plus que ça. Donc, la bonne comparaison, je crois, c'est la comparaison avec le Canada et spécialement entre le Québec francophone et les autres provinces. Et vous voyez que si on regarde les taux de mobilité annuel entre les pays de l'Union européenne et entre le Québec et les autres provinces du Canada, voilà, c'est exactement les mêmes taux. Donc, disons que les niveaux de mobilité en Europe n'est pas extrême dans le sens de l'immobilité. L'autre mythe à l'opposé, je vais bouger d'un extrême à l'autre, l'Europe est un continent sans frontières. Le régime de libre circulation est spectaculaire, sans précédent, ni dans l'histoire, ni dans la géographie. Mais par contre, on aurait dû s'attendre qu'avec la crise de l'euro entre 2008 et 2012-13, on aurait assisté à des grands flux de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, vers le nord de l'Europe. C'est vrai que le nombre des migrants du sud de l'Europe vers le nord a augmenté un peu, mais pas plus que ça. Donc, l'idée, qui est une idée même popularisée par un prix Nobel, Robert Mandel, que la monnaie unique devait engendrer un régime de libre circulation, que cette régime de libre circulation aurait permis d'absorber les chocs asymétriques d'une crise dans certaines régions avec des mouvements massifs des populations au chômage, par exemple en Grèce vers l'Allemagne, ça n'a pas eu lieu. Et pourquoi? Car il y a des rigidités, les marchés du travail ne sont pas des vrais marchés, il y a une forte cartélisation sur le marché national, les employeurs allemands ils donnent la priorité à ceux qui ont des qualifications allemandes. Il y a des barrières linguistiques, les barrières linguistiques, sauf l'anglais, l'allemand n'est pas très connu, on ne dit rien du suédois ou du néerlandais. Et ça est particulièrement contraignant, surtout pour les métiers intermédiaires. On peut se passer de l'allemand si en Allemagne on travaille dans la finance. On peut paradoxalement se passer de l'allemand si on travaille dans les bâtiments. Mais on ne peut pas se passer de l'allemand si on travaille à un guichet des banques. Il faut parler la langue nationale. Il y a aussi des effets de saturation. Les flux avaient été déjà massifs entre 2004 et 2008, donc il y avait eu une forte présence assez soudaine des migrants européens. Et il y a aussi un effet de structuration. Il y a des chaînes migratoires existantes qui ont empêché la création de nouvelles trajectoires. Donc, par exemple, les Polonais ont leur réseau au Royaume-Uni qui ont un peu limiter la migration des Roumains au Royaume-Uni, car certaines professions étaient plébiscitées aussi par les employeurs donnant priorité aux Polonais plutôt qu'aux Roumains. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas mis dans ces diapos. Par exemple, il y a des législations nationales qui interprètent de manière très élastique et parfois même abusive des lois européennes, donc en créant des discriminations et en rendant la vie plutôt difficile pour les migrants intra-européens, malgré les principes des non-discriminations. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu une loi, il y avait encore David Cameron comme Premier ministre, qui établit ou établir une période, une moratoire pour les nouveaux arrivants pour accéder au droit au chômage. Hein? Ce qui était vraiment borderline, très limite en relation avec les droits européens. J'arrive à mes conclusions et je résume un peu ces éléments que j'ai détaillés dans ma présentation. Donc, les migrations intra-européennes ont augmenté de manière très significative dans les derniers 20 ans, mais elles ont augmenté de manière constante, de manière presque, je dirais, structurelle, pas de manière cyclique comme s'attendaient les économistes. Les cycles économiques qui ont été pourtant assez marqués, surtout dans la période que j'ai évoquée, la période 2008-2013, la crise de l'euro, n'a pas affecté de manière décisive la courbe de croissance de ces migrations. Le deuxième point que je tiens à souligner, c'est la forte circularité et réversibilité de ces flux de migration intra-européens où il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a un caractère multiforme, j'ai mis l'accent sur l'axe Est-Ouest, qui est l'axe pourtant, c'est un peu les piliers démographiques des migrations intra-européennes, mais il y a aussi des migrations sud-nord qui sont importantes. Il y a même des migrations nord-sud, qui sont des migrations qui n'ont pas à voir avec le travail, ont à voir avec des choix, des qualités de la vie. Je parle du monde pré-Covid, hein, évidemment. Et la réussite des migrants intra-européens est globalement meilleure que celle des migrants non-européens, mais il y a une stratification interne parmi les migrants intra-européens entre les migrants de l'Est, les migrants de l'Ouest et les migrants du Sud. Donc, il ne faut pas mettre tout dans les mêmes sacs. Quel est le futur? On peut dire deux choses. On peut dire que On peut s'attendre peut-être à un effet de plateau. Donc, cette montée forte à laquelle on a assisté dans les derniers 20 ans va se réduire, va s'amorcir un peu. Pourquoi ? Une raison fondamentale, une raison démographique. Il y a une contraction très forte de la fertilité, il y a eu dans les derniers 20 ans de la fertilité un peu partout en Europe, mais surtout dans l'Europe de l'Est. Donc, la principale source d'immigration voit une réduction de la population sensible, la population jeune, qui est normalement la plus tentée par la migration. Et il y a un deuxième enseignement que j'ai touché un peu rapidement, c'est-à-dire la réversibilité du régime. Le Brexit est un coup important dans les visages de la libre circulation, un pôle fondamental des migrations au sein de l'Europe va s'écarter, c'est fini. Les gens qui ciblaient le Royaume-Uni, peut-être les cibleront encore, peut-être ils se redistribueront ailleurs, peut-être ils décideront de ne pas partir. Et de toute façon, il y a aussi des variables incontrôlées qu'on n'avait jamais pris en considération vraiment, comme la pandémie, qui ont mis à terre les avions low cost, comme tous les avions, et qui obligent les gens à reconsidérer leur stratégie de mobilité. Ça peut être une parenthèse, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est sûr que la défense du régime de libre circulation reste à l'ordre du jour pour l'Union européenne, car c'est un trait marquant de son identité. Après, quels sont les intérêts des États membres à garder au moins ce régime? C'est tout un autre discours. Merci.